puis dire bonjour à notre sœur Monique ce matin, qui nous écoute régulièrement sur Internet et qui m'écrit. Ça me fait plaisir que vous m'écriviez, vous qui m'écoutez. Et que Dieu vous bénisse. Elle m'a envoyé une belle lettre. Je la mettrai sur la cheminée du salon tout à l'heure. Une belle chose que le Seigneur lui a inspirée. C'est très, très beau. Que Dieu la bénisse. Amen. Ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 23, s'il vous plaît, ensemble. Verset 12. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Amen. Jésus regardait comment se comportaient les gens. Il regarde toujours, en fait, comment nous nous comportons. En fait, tout le monde regarde tout le monde. Jésus, un jour, c'était un jour de sabbat, il avait été invité chez un pharisien, et tout le monde se regardait, et Jésus regardait. Jésus regardait comment les gens s'installaient et comment ils cherchaient à se mettre à la première place. Les autres aussi regardaient, ils observaient Jésus. Or, voilà qu'un malade est entré. C'était un hydropique. Les religieux, c'était une bande de religieux, c'était chez un pharisien. Ils ont regardé Jésus, ils ont observé, se demandant qu'est-ce qu'il allait faire. Et étant donné que ces hommes étaient la crème de la religion la plus crémeuse de l'époque, alors Jésus leur demande leur avis. Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ah! Pas de réponse. Garde le silence. Pourquoi pensez-vous qu'ils gardaient le silence? Comment voulez-vous qu'ils répondent à une telle question? Vous n'avez pas été programmé pour? On ne se posait jamais cette question dans leur milieu, étant donné qu'on ne priait pas pour les malades. Ou alors, si on priait pour les malades, c'était surtout pas en pensant qu'ils allaient être guéris. Ça m'étonne toujours, ça. C'est toutes ces réunions de prière qui se font un peu partout dans le monde. Mais quand il y a un miracle, tout le monde est étonné. Oh. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils prient alors? Eh bien, ces gens, c'était la même chose. Étant donné qu'ils ne priaient pas pour la guérison des malades, ils ne s'étaient jamais posé la question, est-ce qu'on peut opérer une guérison le jour du sabbat? Du moins, est-ce qu'on peut opérer une guérison si importante? Parce qu'un hydropique, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'en ai vu en Afrique, c'était assez terrible. Alors Jésus reprend, comme ils ne disent rien, Jésus reprend la parole, et il dit, si votre bœuf, et puis se reprend, il dit, si votre fils tombait dans un puits, le jour du sabbat, est-ce que vous le retireriez de là? Incapacité totale de répondre. Mais pourquoi? Eh bien, il connaissait la loi, mais devant un fait qui demande du cœur, incapable de répondre. Jésus regarde, les gens regardent. Alors Jésus parle, et les gens n'ont plus qu'à se taire, parce qu'ils sont confondus. Les paroles de Jésus sont toujours des paroles qui dérangent. Pourquoi? Parce qu'elles sont des paroles justes comme la loi, mais des paroles pleines d'intention d'amour comme aucune loi. On ne peut pas obliger les gens d'aimer. Pas de loi. Bien sûr, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est pas une loi, mes frères et sœurs. Si ça ne vient pas de notre cœur, c'est passé. Si c'est vraiment une loi, mais c'est épouvantable. Jésus guérit-il ce malade ce jour-là? Oui, bien sûr. Et les gens regardaient. Mais ils continuèrent à garder le silence. Pas de « Alléluia !» Pas de « Oh !» Non, 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 pas de ça. Rien. Alors Jésus parle encore. Vous voyez, ils ont une loi gravée sur de la pierre. Ce que Jésus est venu faire, c'est mettre une autre loi, une loi gravée sur des cœurs de chair. Et là, c'est différent. Il y a de l'émotion qui passe, il y a du sentiment qui passe, il y a de l'amour qui passe. Quand c'est sur un cœur qui bat, non pas simplement sur une table de pierre. n'y a pas d'explosion de joie, de alléluia. C'est spectaculaire, hein. Un hydropique qui est guéri, c'est spectaculaire. Et bien là, non, rien du tout. Regarde ça. Après, alors, des fois, on est étonné quand on est en Afrique et puis qu'on voit des miracles extraordinaires qui se produisent, puis les gens sont là. Hein. Et la Bible nous dit la même chose. Pas s'imaginer que tout à coup, parce qu'il y avait un miracle, il y avait des violons qui se mettaient à jouer, puis des gens qui tombaient en extase. Pas du tout. Cœur de l'homme. Alors, Jésus parle encore. Et après qu'il ait parlé, vous lirez tout ça dans Luc. Un homme dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Rappelez-vous, c'était pendant un repas tout ça. Et il s'écrit, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Mais vous savez ce qu'il est en train de dire là, cet homme? Est-ce que vous avez bien réalisé ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, « Ben ici, ce n'est pas un repas où Dieu est roi. » C'est ça qu'il est en train de dire en fait. Et pourquoi est-ce que ce n'était pas un repas où Dieu était roi? Pourtant, Dieu était là, hein? Il n'était pas roi. Simplement parce que chacun de ces gens qui étaient là à ce repas était, se considérait comme étant roi, cherchant à se mettre à la première place parce que, pensant très sincèrement être le meilleur en ceci, le meilleur en cela, moi je mérite, il faut absolument... Alors Jésus reprend la parole et cette fois il parle du repas auquel nous sommes invités par Dieu, dans, justement dans son royaume, là où il sera roi. Et il parle de l'importance de répondre oui à l'invitation de Dieu. Et vous voyez pourquoi on répond difficilement, spontanément oui aux invitations que Jésus nous fait. La première raison, c'est à cause de l'image que nous voulons que les autres aient de nous. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Par rapport à nos amis, surtout dans ce monde, les amis dans le monde. Ou alors, une autre raison, c'est que on a un orgueil spirituel. On ne répond pas à ce que Jésus dit parce que on sait. Je sais. Je me rappelle une anecdote marrante. Tout au début de la communauté, juste avant la fin de l'année, j'avais reçu une prophétie pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Notre sœur Simone s'était convertie pas longtemps avant et puis elle n'avait pas eu de prophétie. Et ça avait fait tout un drame parce qu'Edith, qui n'était pas très très bien affermie dans la foi, elle m'a dit « Mais comment ça se fait? Je veux absolument que tu fasses une prophétie pour ma mère. Je ne peux pas prendre une prophétie pour ta mère comme ça. » Et elle avait ça très très à cœur. Et c'était beau, c'était joli, dans sa simplicité, dans son amour, tout ça, de demander ça. Là, vous avez reçu une prophétie. Il n'y a que 3 personnes qui sont venues m'en parler dans toute la communauté. Pas d'alléluia, pas de « Oh, Dieu a parlé ». Moi, je sais. Bien sûr qu'on sait des choses. Les pharisiens connaissaient beaucoup de choses. Mais si ces choses que nous savons ne nous ont pas débarrassés du mépris que nous avons pour les autres, alors c'est que ce n'est pas à Jésus qu'on a dit oui, mais à une religion. Alors, souvenez-vous, c'est vrai, alors Jésus ce matin vous fait un reproche, mais souvenez-vous qu'il a une personnalité complexe. Jésus est capable de révolte, d'ironie. Ah bon, ben, puisque tu n'es pas capable de me répondre, ben moi non plus, je ne te répondrai pas. Ironique. Ironique face au mensonge, révolté face à l'hypocrisie, mais en même temps, il est aussi capable de compassion pour les menteurs et pour les hypocrites. Complexe comme personnage. Jésus, il est la vie, il n'est pas l'existence. Ceux qui ne lui donnent pas un oui franc, massif, existent et croient vivre. Est-ce que vous existez en communauté ou est-ce que vous vivez en communauté? Ils se sentent, beaucoup se sentent exister parce que c'est ce qu'on vient de lire là dans ces textes. Parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils ont un talent, parce qu'ils ont une responsabilité, parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils ont un compte en banque bien garni, parce qu'ils ont un ministère, voire un don surnaturel. Ils se sentent exister à cause de tout ça. Et le monde est plein de cette sorte de personnes religieuses qui existent et qui n'ont pas de vie. Un jour, ils ont été vivants, Ils ont prié, ils ont reçu un don, et puis maintenant, ben, ils l'exercent. Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels, alors ils exercent le don. Mais il n'y a plus cette vie. Le don est là. Ce qu'on a reçu, on l'a reçu, voilà, puis on s'habitue à tout. Et plus d'alléluia, plus d'émerveillement. Le monde est plein de cette sorte de personnes qui n'existent que parce qu'ils sont le petit chef de ceci ou le petit chef de cela, et qui abusent de leur autorité, qui abusent de leur pouvoir, qui s'enflent de leur supériorité. Et Jésus qui regarde, il sait tout ça, et il sait que c'est le mal qui ronge le monde. Il le dit. Il regarde et il dit. Et il dit quoi? Il dit, vous êtes tous frères. Aucun de vous n'est supérieur. Aucun. Dieu est votre seul supérieur. Avoir un autre supérieur que Dieu, c'est avoir une idole. Il dit, ne craignez aucune idole, ni rien, ni personne. Parce que rien ni personne ne peut vous nuire. Ne craignez même pas le diable. Craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Ce n'est pas le diable qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne, c'est Dieu. Pas de père, ni de Saint-Père, à plus forte raison. Dieu seul est votre Père. Et le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors quand je vais en Afrique, on me donne du homme de Dieu. Et il y a plein de gens qui m'écrivent, je vous en supplie, vous qui m'écoutez là, ne me dites pas homme de Dieu. Bon, ben c'est évident, bon, je suis un homme de Dieu, d'accord, je suis un homme de Dieu. Mais pas plus que n'importe quel frère ou sœur qui aime Jésus-Christ. Pourquoi me donner du homme de Dieu à moi? Pourquoi pas? Ou du pasteur Michelza, attends. Pasteur, oui, mais moi, je ne sais écrit nulle part que je suis pasteur. Les gens disent ça. Je préfère qu'on dise frère Michel, voilà, c'est tout. Homme de Dieu. C'est la moindre des choses qu'un chrétien soit un homme de Dieu. C'est la moindre des choses qu'une femme soit une femme de Dieu, non? Alors, frères et sœurs, l'autre jour, je vous parlais en vous disant, voyez, il y a une parole, ce frère qui m'avait dit, il y a une parole sur laquelle je suis vraiment sûr, c'est la semence donner et recevoir, semer et moissonner. Mais là, Jésus nous lance un défi encore. Testez sa parole. Testez-le. Mettez-le à l'épreuve sur cette parole-là aussi. Sur quelle parole? Ben, sur cette parole qui vous permettra, chez les amis, chez les frères et sœurs, au travail, à l'école, n'importe où, de ne pas chercher à prendre la première place. Tu verras qu'on te donnera la meilleure place. C'est amusant de voir que Jésus a raison. C'est amusant de tester la parole, qu'il en soit fait selon ta parole. Je vais agir sur ta parole pour voir comment Jésus fait pour nous donner la meilleure place, sans qu'on ait besoin de revendiquer. Oui, mais moi j'ai des droits, oui, mais moi si, oui, mais moi, mamie, maman. Pff, Bien sûr, le monde entier fait comme ça. C'est très amusant de voir que Jésus a toujours raison, ça réjouit. Ça fait dire « Alléluia !» Ça fait dire « Oh !» Mais ce n'est pas toujours amusant de regarder comme Jésus regarde et de voir comment les gens ne s'aiment pas eux-mêmes, finalement. Parce que quand on cherche à avoir la première place, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Ah bon ? Oui. L'autre jour, nous avons invité un frère, homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui prêche là-bas à Madagascar. Et il m'a raconté une histoire. Il est allé voir un ami que nous avons en commun, un vieil ami que je connais depuis 1968. C'est un vieil homme maintenant, il a vieilli, mais je vois qu'il a toujours dans son cœur, ce vieux-là, un manque d'assurance vraie au sujet de son importance réelle. Cet ami que nous avons en commun le voit donc, il le rencontre et lui, au bout d'un moment, lui parle de moi. Et savez-vous ce que ce pasteur, ce vieux monsieur, lui a dit? Bof, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai foutu dehors.
Béni soit le Seigneur.
C'est faux, mes frères et sœurs. C'est faux. La dernière fois que je suis allé dans son église, belle église, pleine d'ailleurs, à Paris, c'était avec ma femme, et tout à coup, il nous a vus dans le public. Il a stoppé son sermon, il est descendu de l'estrade, il nous a embrassés, il nous a présentés, n'est-ce pas, chérie, devant tout le monde. Question, pourquoi cette méchanceté dite à ce frère? Pourquoi il lui a dit ça? J'ai réfléchi à ça. Parce que moi, aussitôt que j'ai su que ce frère était encore vivant, on m'avait dit qu'il était mort. Aussitôt que j'ai su qu'il était vivant, j'ai pris mon internet, j'ai cherché, et j'ai cherché à l'appeler, j'ai cherché à lui téléphoner, je n'ai jamais réussi à tomber dessus. Puis j'ai réfléchi, j'ai dit, après tout, pourquoi est-ce que je téléphonerais? Je ne sais pas. Vaut mieux que je prie avant, quand même. Alors, en réfléchissant, la réponse m'est venue. Il a fait cette réflexion à ce frère, la dernière fois qu'il est venu, je l'ai foutu dehors. Eh bien, c'est pour se donner de l'importance devant ce frère. Ce vieux a dit ça pour se donner de l'importance devant l'autre. Ça signifie quoi? Ça signifie que, plus ou moins consciemment, il me juge supérieur à lui. Et ça le froisse. Ça froisse son ego. Alors, pour se grandir, il me rabaisse aux yeux des autres. Vous voyez? Quand on regarde les gens comme Jésus les regarde, on a de la compassion. Ça fait mal au cœur de voir qu'un vieil homme comme ça en est encore là. Ça fait de la peine de voir qu'après tant d'années passées au service de Dieu, brillamment, avec de réels dons surnaturels de Dieu, vraiment, eh bien, il se regarde toujours comme un petit et comme un inférieur. Il ne vous le dira jamais. Mais c'est comme ça qu'il se comporte. Et pourtant, il n'est pas petit du tout. Il n'est pas inférieur du tout. C'est dommage qu'il le croit. Pourquoi il le croit? Qu'est-ce qui lui donne à penser ça? Je ne sais pas. En tout cas, son comportement prouve qu'il se juge comme petit. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Il n'est ni plus petit, ni plus grand que moi. En réalité, en vérité, il est mon frère. Mais il souffre. Souffrez-vous? Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur à mes yeux. Vous avez de l'amour qui vient du cœur de Dieu. Vous en avez aussi qui vient de mon cœur. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Nous sommes égaux devant Dieu. Alors ne me tentez pas de penser le contraire. Parce qu'en réalité, c'est là le problème. Je reprends l'exemple de ce pasteur, je ne le nommerai pas, qui m'a soi-disant foutu dehors. Il paraît que je l'imite bien. Il me pousse à tente, il me tente de croire qu'il est faible. Il est mon frère, oui, mais il n'est pas mon égal. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel? Tu es en train de dire quoi, là? Tu es en train de juger que tu es supérieur à lui? Non. Écoutez bien ce que je dis. Parce que ce que Jésus dit, c'est très complexe. C'est pas simple. C'est complexe. Et il faut se donner de la peine pour bien comprendre. Je ne suis pas égal à lui parce que moi, je n'ai pas besoin de le rabaisser aux yeux des autres pour me sentir bien. Vous saisissez? Et un frère, une sœur qui se montre désagréable, puisqu'on regarde, hein, alors on se montre. Celui qui se montre désagréable, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, qu'il a des progrès à faire. Suis-je égal à ce frère qui condamne ceux qui ne font pas partie de sa sainte dénomination religieuse? Non, je suis désolé. Je ne suis pas comme ça. Donc, je ne suis pas égal. Comprenez bien ceci. Écoutez ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Jean 1, Jean 4, 17. Tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ok, je reprends encore l'exemple de ce malheureux pasteur qui m'a foutu dehors. S'il est vraiment tel que Jésus est, j'ai vraiment un problème, parce que s'il m'a foutu dehors, ça veut dire que Jésus aussi m'a foutu dehors. Vous voyez? C'est complexe. Alors, en quoi est-il, lui, tel que Jésus est? En quoi suis-je, moi, tel que Jésus est? En quoi êtes-vous, vous, tel que Jésus est? Eh bien, en tant que fils et fille du même Père, là, nous sommes tels qu'il est. Amen. Nous sommes comme Jésus en ceci, que Dieu est notre Père, que nous hériterons ensemble en tant que fils et filles légitimes de Dieu. Lui, aussi bien que vous, aussi bien que moi, aussi bien que Nicolas, aussi bien que Carambéry, aussi bien que Pierre Cabré, aussi bien que Abraham Gadji, aussi bien que Marc Rosa, aussi bien que notre sœur Monique, aussi bien que tous ceux qui nous écoutent, partout les ceux qui se réclament de Jésus-Christ comme leur sauveur, hériteront. On nous hériterons ensemble parce que en ceci nous sommes semblables, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Mais, hérité, au moment de l'héritage, au moment des distributions, il y aura des surprises. Et en tant que prédicateur, je n'ai pas le droit de vous prêcher un évangile à l'eau de rose, gna gna gna, les petites fleurs, Jésus-Christ, c'est gentil, vous verrez, vous pouvez faire n'importe comment, de toute façon, Jésus vous aime. Il y aura des surprises. Il y aura ceux qui auront des récompenses énormes, il y aura ceux qui auront des récompenses plus petites, il y en a ceux qui n'en auront pas du tout. Et puis, d'après Luc 12, 47, c'est pas Luc qui dit, c'est Jésus qui dit. Il y en a même à ce moment-là qui se prendront les coups. C'est pourquoi on doit veiller à la qualité de notre service et avec quels matériaux on construit en présence de Dieu et des hommes. Hier, Alain est venu dans mon bureau pour accomplir le service matériel et noble de Malachie 3.10 que vous connaissez, et il l'a fait d'une manière spéciale. Je ne critique pas votre manière de le faire, je critique pas, je ne dis pas que vous faites mal, mais je voudrais dire simplement, puisque nous avons le pouvoir de regarder, voilà, il a rendu son service en l'accompagnant, en le mettant dans cette merveilleuse petite chose. C'est mignon, hein? C'est adorable, c'est joli. Vous avez regardé, vous avez vu. Ceux qui sont sur Internet ne voient pas encore parce que c'est que l'audio. Je les laisse deviner ce que c'est. Vous avez vu, je regarde, Dieu voit aussi. Alors personne, la Bible ni moi, demande que vous fassiez comme Alain et que vous vous surpassiez les uns les autres en faisant de plus en plus beau, de plus en plus chic, de plus en plus cher pour m'impressionner. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Mais Dieu regarde et sonde les cœurs. Alors, quand il voit, il récompense. C'est ce que la Bible dit. Oui ou non? Oui. Supposons que Alain vienne avec la même apparence, avec cette même magnifique chose, mais juste pour paraître. Moi, je regarde et je dis, oh, comme c'est beau, comme c'est gentil. Mais Dieu regarde au cœur. Et sa récompense lui passera sous le nez. Vous voyez, frères et sœurs, je regarde, les pharisiens regardaient Jésus, Jésus regardait les pharisiens, nous nous regardons tous les uns les autres. Nous regardons, mais Jésus regarde au cœur. Et c'est pas facile de regarder comme Jésus regarde. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Il y a des choses qui sont subtiles et qui ne se voient pas avec les yeux. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite et puis qu'on voit à la longue. On se rend compte petit à petit à la longue. Jésus, lui, il regarde au cœur, au centre tout de suite de la chose. Nous, nous regardons à l'apparence. C'est Dieu qui le dit. Alors, que faire? Eh bien, frères et sœurs, chacun pour soi, servons Dieu au mieux et de tout notre cœur avec une bonne apparence. J'ai bien dit de tout notre cœur avec une bonne apparence. Ah bon? Oui, parce que Jésus nous enseigne que nous devons briller. Jésus dit que nous devons être vus. On va lire Matthieu 5, 15, 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'elles glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu veut que les gens voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Vous voyez comme il est complexe, des fois il dit qu'il ne faut pas faire devant tout le monde, il faut que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Vous voyez comme il est complexe? Ça dépend à quelle sorte de personne il s'adresse quand il dit ces choses-là. À ses disciples, aux siens, véritablement, en vérité, Jésus veut que nous brillions comme lui, il brille. Il veut que nous nous manifestions comme fils et filles, comme lui, il est fils. Au bénéfice de tous les bienfaits, les faveurs du Père. Et il veut qu'on le montre pour que le Père soit glorifié. Mais vous ne pourrez pas empêcher les gens de penser mal au sujet de vos intentions. Les scandales sont obligatoires. Alors c'est vrai qu'il y a ceux qui servent de façon à être vus avec un cœur mauvais, avec un cœur en désirant être admiré et loué et glorifié. Et quand vous allez agir de façon à être vu, la majorité des gens penseront que vous êtes un hypocrite et que vous faites ça pour être vu. Laissez courir. On ne peut pas empêcher ça. On ne peut pas empêcher ce scandale. Jésus lui-même a été un objet de scandale. Lui-même. Alors, il est donc bien nécessaire de comprendre cette parole de Jésus, soyez un. Et ça, chacun de vous pour vous-même. Soyez un, c'est-à-dire, soyez une unité avec l'Esprit qui animait Jésus. Soyez entier. C'est ça, être intègre. Ça ne veut pas dire ne faites pas quelque chose qui est mal. Quand on est entier, on ne fait pas quelque chose qui est mal. Même quand on désobéit à la loi. On ne fait rien de mal quand on désobéit à la loi et quand on est entier. Jésus a désobéi à la loi ce jour-là en guérissant un hydropique. Soyez entier, soyez intègre. Dieu nous voit et tous nous voient. Alors, peu importe ce que les gens disent, dans un certain sens. Mais prenons garde à ce que Dieu dit après nous avoir vus. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Maintenant, il ne faut pas se moquer complètement non plus de ce que les gens voient et de ce que les gens disent de nous. Jésus vit du verbe vivre en certains de ceux qui sont sur cette terre et peut parler au travers d'eux. Au sujet de ce qu'il voit de votre vie. Et de toute manière, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous agissions avec grâce, c'est-à-dire avec une apparence agréable. Personne ne peut condamner une bonne action faite avec grâce. Jésus lui-même a eu besoin de croître en sagesse, en stature, et une grâce. Luc 2, 52. Alors que cela ne nous décourage pas. On a tous des progrès à faire pour se développer en sagesse, en stature et en grâce. Alors, il nous faut croître. Mais nous ne pouvons pas croître cachés sous le boisseau. Nous sommes appelés à croître en public. Nous avons un public. Ce matin, les enfants nous ont joué quelque chose qu'ils ont appris. Et ils ont été en public. Jusqu'alors, ils jouaient en secret avec Simone. Mais là, ils ont joué en public. Et nous, on ne peut rien faire en secret. Parce que tout ce qu'on fait, on a un public. Nous sommes sous le regard attentif du Père. Nous sommes sous le regard des gens. C'est Luc qui dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, en public. Alors veillons à ne pas oublier que nous sommes, nous aussi, en public, tel il est, tel nous sommes, frères, fils et filles du même Père. Ce Père est dans le public. Nos frères et sœurs sont dans le public. Mais il y a aussi nos familles, pas converties, qui sont dans le public. Il y a nos collègues de travail qui sont dans le public. Il y a nos collègues à l'école qui sont dans le public. Et parmi ces gens au travail et à l'école, il y a des futurs frères et sœurs qui sont là et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous voir briller afin de glorifier Dieu et se convertir. Et puis il y a les inconnus qu'on ne connaît pas mais qui nous regardent. On est en public. Et puis il y a le monde spirituel, il y a les anges de Dieu, et puis il y a les démons qui nous regardent. Et de temps en temps, il y a la visite du diable. Il ne vient pas souvent, mais il vient de temps en temps. La Bible nous dit qu'il parcourt la terre, de temps en temps il regarde à gauche, à droite, et puis il va vers Dieu, et puis il y a des réunions avec tous les fils de Dieu, là, et puis Satan se présente au milieu, et puis il vient baver à votre sujet. Dieu dit alors, t'as vu, frère machin hein? Comme ça, il vient et il accuse. De temps en temps, il se déplace, pas toujours. Il envoie ses démons. Mais de toute façon, il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les anges. Il n'y a pas qu'eux, il y a aussi les frères et sœurs, et puis il y a Dieu. Et puis il y a... Donc le jugement va tomber juste. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours Dieu qui a raison à la fin. Mais frères et sœurs, ne perdez pas de vue que vous êtes vus. Ne donnez à personne de bonnes raisons de vous accuser. Vous ne pourrez pas empêcher. Jésus a été accusé lui-même. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Vous ne pourrez pas empêcher que les gens vous accusent. Mais faites tout pour que ça se passe bien. Rendez-vous sensible à la présence de Dieu dans votre public. Et profitez du temps pour croître en sagesse, en stature et en grâce. Pour la plus grande gloire de Dieu. Pour votre plus grande satisfaction personnelle. Et pour le bien de tous nos contemporains. Amen. Jésus soit béni pour cette parole. Je sais qu'elle est un peu sévère, mais c'est bien pour nous remettre sur les bonnes voies pour commencer cette année, en sachant que tu nous regardes, que tu nous observes, comme nous te regardons, comme nous t'observons, comme nous sommes là et que nous voyons ce que tu fais. Eh bien, il sort des alléluia de notre cœur, de notre bouche. Et quand tu nous regardes, eh bien, j'espère, mon Dieu, que tu es content et que tu manifestes ta joie et que les anges aussi tapent des mains et sont contents. Merci, Seigneur Jésus, parce que aussi nous avons des ennemis comme le diable, les démons, et quand ils nous regardent, ben j'espère qu'ils sont en colère, j'espère qu'ils sont dans la crainte, et j'espère qu'ils se sentent mal à l'aise, et qu'ils ne sont pas réjouis de voir comment nous agissons, et qu'ils ne sont pas réjouis de voir qu'on bricole, qu'on ne se donne pas entièrement, qu'on fait les choses à moitié, qu'on ne termine pas ce qu'on commence, mais qu'on va jusqu'au bout pour la plus grande gloire de ton nom, et pour le plus grand bien de nos contemporains. Merci Jésus. Amen.